veux toujours être comme le Maître, a été plus de douceur et d'amour, plus être petit dans le cœur. Plus agir pour lui, faire sa volonté. Plus de son amour, que mon cœur en soit rempli. Plus de zèle pour lui. Plus de son amour remplisse mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur à toi entièrement et qu'il soit entièrement à toi. Pardonne-moi toutes mes fautes. Je te le demande. Lave-moi. Lave-moi entièrement. Ô Seigneur, exauce-moi. Être comme fut le Maître. C'est ma prière quotidienne, sincère. Porter ma croix et faire sa volonté encore plus. Ressentir dans mon cœur de me tenir à sa disposition. Encore plus aller vers ceux qui sont perdus. Me tenir à la disposition de Jésus et recevoir encore plus d'être conduit par son esprit pour aller vers ceux qui sont perdus. Prends mon cœur, qu'il t'appartienne entièrement. Je veux être entièrement à toi. Seigneur, exauce-moi. Être comme le Maître. C'est mon objectif. Bon, patient, doux et calme. De se renier soi-même, encore plus entièrement, portant ma croix pour pouvoir le suivre et marcher comme il a marché. Se renier soi-même comme il a été lui-même sur terre, marchant comme il a marché. Prends mon cœur. Tu as ôté mes fautes. Je te remercie. Lave-moi entièrement, ô Seigneur. Exauce-moi. « viens avec moi à Golgotha et voilà ce qui s'est passé pour toi sur la croix. Il a prié pour toi, prenant tes fautes et tes péchés. Il fut meurtri, blasphémé, méprisé. Il a subi tout cela pour toi. Oh, viens. Viens avec moi à Golgotha. Le Sauveur et Seigneur du monde saigne pour toi. Lui que tu as tant méprisé, il mourut pour toi à Golgotha. Il s'est écrié, pour toi, c'est accompli, c'est accompli. C'est pour toi qu'il mourut à Golgotha. Oh, viens, viens avec moi à Golgotha. Car là, le ciel est descendu sur terre pour toi. Il a ôté toutes tes fautes et tes péchés. Il s'en est chargé à Golgotha. C'est là qu'il mourut pour toi. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je vous salue tous dans le monde entier, vous qui écoutez, ou bien alors qui voyez, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore nous rassembler à Zurich, mais nous sommes quand même reconnaissants de ce que nous pouvons écouter la parole de Dieu. Par la vidéo, la parole qui nous est apportée est pour nous la nourriture spirituelle. Et en cette nourriture, rien ne manque. À cette nourriture, et il y en a assez. Et ainsi, nous pouvons remercier le Seigneur de ce que nous pouvons toujours nous asseoir à la table. À sa table, richement garnie. Malgré cette pandémie, nous sommes reconnaissants à Dieu, car nous sommes sous sa protection, selon le psaume 91 ou alors 91. Je voudrais, avant que le frère Franck nous apporte la parole, lire plusieurs versets de l'apôtre Paul. Nous savons que Paul, encore sous le nom de Saul, a persécuté les croyants. Mais en voyage à Damas, il a eu une rencontre avec Dieu. Le Seigneur lui a parlé à Ananias, et lui a dit, cet homme est un ustensile, un outil choisi, élu. Je voudrais lire maintenant quelques écritures. Dans Colossiens, chapitre 2, du verset 1 au verset 15.
Ich will euch nämlich wissen lassen, welch schweren Kampf ich für euch und die.
Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos transgressions. En nous pardonnant, en allemand, par sa grâce, toutes nos transgressions. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, que le Seigneur soit loué et exalté et remercié pour ces paroles merveilleuses. Maintenant, nous voulons prier. Fidèle Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour cette nourriture que tu nous accorderas, donneras aujourd'hui. Bénis notre bien-aimé frère Franck, qui aujourd'hui nous apportera la nourriture. Je l'ai dit, nous avons assez de nourriture. Mais le Seigneur, que tu puisses, toi le Seigneur, que tu puisses ouvrir nos oreilles, nos ententements, notre ententement, pour que ces paroles puissent être introduites dans nos cœurs, dans nos cœurs. Nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour, que tu puisses continuer à nous conduire sur le chemin vers toi. Seigneur Jésus, pardonne-nous là où nous avons manqué. Pardonne-nous nos offenses et permets-nous d'aller à ta rencontre sur ton chemin. Nous voulons te louer et t'exalter, te remercier et t'apporter toute l'honneur dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs dans le Seigneur, moi aussi je voudrais de tout mon cœur vous saluer et nous tous ensemble nous souhaiter les riches bénédictions de Dieu. Nous sommes tant reconnaissants, tellement reconnaissants de ce que nous pouvons écouter la sainte parole de Dieu et la parole que le frère Keller a lue. Nous allons tout à l'heure brièvement revenir là-dessus. Comme prochaine chose, beaucoup d'abord de salutations de Zurich, de la Suisse, adressé à tous les frères et toutes les sœurs dans tous les peuples et les langues et aussi de toute l'Europe, à toute l'Europe et aussi des salutations de toute l'Europe. Je voudrais aussi remettre les salutations quand je pense que le monde d'entier écoute, suit et vit et voit et que tous expriment leurs salutations, expriment leur reconnaissance, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant puisse venir sur nous au-dessus de toute mesure du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dans une grande attente. Nous savons, en raison des promesses dans la parole de Dieu, que le Seigneur achèvera son œuvre avec son Église et que dans cette dernière partie du temps de la grâce, nous nous sommes vraiment rapprochés, très, très rapprochés, et nous sommes très, très proches de la fin. Mais nous ne sommes pas les seuls à le remarquer, nous comme croyants bibliques, mais les autres le remarquent aussi que les choses ne vont pas continuer comme ça longtemps. Nous regrettons bien sûr que les réunions ne puissent avoir lieu comme avant, mais nous sommes reconnaissants de ce que cela peut s'accomplir dans le monde entier, dans tous les pays, que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, là je suis parmi eux, au milieu d'eux. Et quand nous pensons à ce que par les transmissions, la parole du Seigneur vient à la maison, dans chaque maison, dans chaque appartement, à chaque famille, tous peuvent écouter, voir et suivre et avoir part. Personne n'a plus besoin de monter dans un avion, de prendre un vol ou bien en voiture, d'entreprendre un voyage. Tous peuvent écouter et voir de leur maison, là d'où ils habitent. Et pour cela, nous sommes aussi reconnaissants à Dieu de ce que toutes ces anciennes prédications peuvent être réécoutées. Et je le dis toujours de nouveau, j'écoute les prédications de frère Branham des années 60. Et vous savez tous exactement ce que le Seigneur a déterminé qu'il a déterminé que notre bien-aimé frère William Branham apporte le dernier message avant le retour de Christ et qu'il devait emmagasiner la nourriture spirituelle, la parole cachée, il devait l'emmagasiner et que le temps viendrait dans lequel cette nourriture spirituelle serait distribuée. Et je pense toujours de nouveau à la première promesse que Dieu a donnée à Abraham. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et là, je pense à l'ordre missionnaire de notre Seigneur. C'est pour cette raison, aller dans le monde entier. Et là, je pense aussi à ce que le frère Branham a dit en répétant. Il disait que le dernier message serait apporté sur toute la terre. Serait propagé sur toute la terre. Et cela s'est produit réellement dans ces 55 ans par la grâce de Dieu. Dans tous les peuples, dans toutes les langues, le dernier message a été prêché, a été annoncé, et tous ceux qui sont de Dieu écoutent, croient, l'écoutent, croient, et ont la possibilité, par la grâce de Dieu, de vivre leur préparation. J'ai encore un bref rappel à faire à tous les frères dans le service, dans tous les peuples et les langues. Si par la traduction, par les traductions, si les traductions ne parviennent pas toujours à rendre les choses aussi claires et exactes qu'elles devraient l'être, s'il vous plaît, veuillez ne pas poursuivre les malentendus. Attendez que les choses soient claires et ne vous méprenez pas davantage. Ne perpétuez pas de malentendus. S'il vous plaît, veuillez ne pas répandre davantage ce qui pourrait apporter un désaccord. Attendez jusqu'à ce que ce soit clair. Parlons en toutes choses le même langage de Dieu. Ayons la même pensée, la même compréhension et la même lecture de la parole révélée. S'il vous plaît, il y a aussi, bien sûr, beaucoup, beaucoup de questions que nous ne pouvons pas traiter aujourd'hui. Nous verrons si cela sera possible la prochaine fois. Les uns veulent savoir si les parents, si tous ceux qui appartiennent à la famille, tous les enfants, croiront selon la parole de l'Écriture, toi et ta maison, crois en Jésus-Christ et toi et ta maison, vous serez sauvés. Il y a des familles dans lesquelles les enfants marchent encore dans leur propre voie et les parents s'inquiètent. Et il y a vraiment toutes sortes de questions urgentes qui sont posées, même sur le mariage, etc. Nous sommes aujourd'hui concernant cette parole précieuse que nous avons lue par notre frère Keller, nous voulons rester dans ces choses et nous approfondir. Mais j'ai vraiment une demande. Que tous les vrais croyants Lise les saintes écritures comme si ce serait le Seigneur lui-même personnellement qui parlerait maintenant avec eux. Et nous allons tout à l'heure encore lire une parole en ce qui concerne les épîtres de Paul, qui simplement a dit, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans d'autres villes. » Sur une lettre, en fait, on n'a pas besoin de prêcher sur une lettre. La lettre est adressée personnellement à quelqu'un. Et si dans les Saintes Écritures, l'apôtre Paul, par exemple, et ça nous pouvons vraiment le dire, que Dieu l'a utilisé à écrire sur tous les sujets bibliques. Nous pensons là aux épîtres précieuses adressées aux Corinthiens. Simplement puissant. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, sur le mariage. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, sur ce que nous devons toujours avoir sous les yeux. Dieu, Christ, l'homme et la femme. Et ensuite, il continue. Dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, en ce qui concerne les ministères et les dons dans l'Église, et il continue au chapitre 13, particulièrement, là, il parle de l'amour. Et là, il dit dans ce chapitre que même si j'avais tout, même si je connaissais tous les mystères et que j'avais toute la foi pour dépasser des montagnes, mais que je n'avais pas l'amour de Dieu en moi, à quoi est-ce que cela servirait? Je ne serais rien du tout. Et ensuite, au chapitre 14, il parle des ministères de nouveau, encore une fois, pour ce qui est des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent comme, comment est-ce que une réunion se déroule? Est-ce que tout n'a pas été écrit dans la parole de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas la Bible avec nous à la maison? Est-ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes lire toutes ces choses et respecter tout ce qui est écrit? Et ensuite même, dans le chapitre 15, sur le retour du Seigneur et tout ce qui va arriver lors de son retour, chapitre pour chapitre, épître pour épître, tout a été écrit et nous avons seulement besoin de le lire. De lire ces choses et de mettre ces choses en pratique et d'être en accord avec ces choses et de demander à Dieu de nous accorder sa grâce pour que tout ce qui est écrit dans notre vie personnelle, dans la vie conjugale, dans la vie de la famille, dans la vie de l'Église, par la grâce de Dieu, soit manifesté. Car ceci est le dernier temps, la dernière partie dans laquelle tout de nouveau doit être rétabli. Tout doit être rétabli. Pas seulement selon l'enseignement, mais dans l'Église, dans la famille, dans le mariage, tout doit être arrangé, mis en ordre bibliquement par la grâce de Dieu. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela, de ce que tout soit rétabli dans l'état primitif. Et nous sommes reconnaissants de ce qu'il n'a pas seulement envoyé son serviteur le prophète pour attirer notre attention sur ces choses. Et son serviteur a annoncé tout le destin du salut de notre Dieu. Et nous pouvons accepter tout. Seulement encore une parole à nos frères en Afrique qui ont l'habitude de tenir et célébrer leur mariage d'une toute autre manière que nous. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles et nous aussi, nous vous laissons tranquilles que tout, par la grâce de Dieu, se déroule en paix en paix et que ce ne soit pas l'un qui voudrait corriger l'autre, mais que tous puissent se soumettre au modèle des saintes Écritures et soient bénis. Maintenant, je demanderai au frère Borg de lire la parole encore dans Colossiens, chapitre 2, dans plusieurs Écritures, et ensuite nous allons continuer, s'il te plaît. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Colossiens, chapitre 2, du verset 9 jusqu'au verset 15. Je commence avec le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous possédez pleinement toute cette plénitude en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Amen.
En lui, vous avez aussi été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, non, mais de la circoncision de Christ qui consiste au dépouillement du corps, de la chair, ayant été enseveli avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui. Vous avez aussi été ressuscité avec lui et par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. Nous restons un peu ici. Un moment. D'abord, se dépouiller entièrement du vieil homme, mourir avec Christ, tel que Paul l'a exprimé dans son épître. Je suis crucifié avec Christ. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Et ensuite, Paul, ici, a lié le baptême d'eau à ce que l'homme qui lui-même est vraiment mort à lui-même, qui a perdu son propre moi, qu'il a abandonné dans la mort, et qui peut dire, ce n'est plus moi qui vis désormais, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui est mort avec Christ peut être enterré avec lui, enseveli avec lui. Et j'ai vraiment énormément dans mon cœur de montrer que tel que dans le terrestre, on ne peut que enterrer, ensevelir des morts, que vraiment dans le baptême, ce sont seulement ceux-là qui sont morts, qui sont ensuite enterrés, ensevelis aussi dans l'eau du baptême et qui sont ressortis de l'eau pour désormais marcher en nouveauté de vie, que ce ne soit pas seulement un service de baptême qu'on entreprend habituellement, mais que ce soit un baptême, un service de baptême biblique, c'est-à-dire que celui qui se laisse baptiser est réellement mort avec Christ et maintenant consciemment il se laisse enterrer, enseveli avec Christ par le baptême d'eau pour désormais marcher en nouveauté de vie, ressuscité par la puissance de Dieu avec Christ. Et comme nous l'avons déjà lu, c'est en lui, notre Sauveur, que toute la plénitude de la divinité a habité ici sur cette terre corporellement, et que nous, en tant que rachetés, nous avons la grâce de posséder en nous cette plénitude de Dieu et de marcher et de vivre d'une manière qui soit agréable, que cela soit agréable à notre Seigneur. Nous disons le verset 13 maintenant. Vous qui étiez morts par vos offenses, en allemand par vos transgressions et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu, en allemand, Dieu vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant, en nous pardonnant par sa grâce toutes nos transgressions. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Et après avoir dépouillé les dominations et les autorités entièrement, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ici, nous restons un moment. Oh, quel évangile! Quel message divin du salut, message de joie. Tous nos actes dont les ordonnances nous condamnaient étaient écrits. Chaque transgression, chaque péché que nous avons commis et que nous commettrons encore, si Dieu nous accorde pas sa grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur la croix à Golgotha, toute cette liste contenant les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et laissez-moi dire cela. Dieu, par esprit, a introduit la loi pour pouvoir ensuite justement faire cette liste de nos actes dont les ordonnances nous condamnaient, pour ainsi nous épingler dans la transgression et nous convaincre que nous sommes coupables. Ensuite, notre Seigneur et Sauveur qui a écrit justement tous ces commandements, il est venu, les a pris tous sur lui dans son corps de chair, tous les péchés, même que nous commettrons dans notre corps de chair, il les a portés dans son corps de chair pour payer le prix en versant le sang de la nouvelle alliance et en nous donnant le pardon, la réconciliation, la grâce et la vie éternelle. Oh, que Dieu soit remercié. Je pense que le frère Keller a eu ses pensées en lui et ça les a occupés, ça en disant cela. Nous lisons maintenant dans Romains, le chapitre 6. Romains, chapitre 6, versets 3 et 4. Romains, chapitre 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Loué et exalté soit notre Seigneur. Ici Paul, dans l'épître aux Romains, ici,
Paul est venu encore à parler du baptême dans son épître adressée à l'église de Rome. Être enterré avec Christ, enseveli avec Christ, pour marcher en nouveauté de vie. Ressuscité, étant ressuscité avec Christ. Bien, frères et sœurs, regardons toujours ce qui s'est passé vraiment pour nous. Et que Dieu a donné la perfection déjà en tout. Toutes ces choses sont achevées et accomplies parfaitement. Aussi vrai qu'il est mort, aussi vrai que notre Seigneur est mort, c'est vrai aussi que nous sommes morts avec lui. Aussi vrai qu'il s'est chargé de nos fautes et de nos péchés, c'est vrai aussi qu'il les a ôtés et pris de nous et que nous avons été délivrés et que nous en sommes libres. Aussi vrai qu'il est allé dans les endroits inférieurs de la terre, en enfer, c'est vrai aussi que nous n'avons plus besoin d'y aller, que nous ne devons plus aller en enfer. Et aussi vrai qu'il est monté au ciel, c'est vrai aussi que nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, sur des nuées, et entrerons dans la gloire. Tout cela, ce sont des réalités divines, même si pour nous, par exemple, le retour du Seigneur, la résurrection de ceux qui se sont endormis en Christ et notre transformation, la transformation de notre corps, ce sont des choses qui sont encore dans le proche futur ou bien qui sont encore devant nous. Mais aux yeux de Dieu, tout est déjà accompli, tout est déjà achevé, tout est déjà fait, tout est déjà accompli, tout a déjà eu lieu aux yeux de Dieu. Mais quand le temps sera arrivé, alors cela aura lieu et nous aurons une part entière à ces choses. Oui, nous pouvons vraiment dire, quel plein évangile merveilleux. Oh, quelle grâce Dieu nous a accordé. Et je répète, Dieu le Seigneur nous a aussi accordé la grâce de reconnaître le jour et l'heure dans lequel nous sommes maintenant arrivés. Lisons, continuons à lire. Dans Hébreux, dans Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 22, jusqu'au verset 24. Éphésiens, chapitre 4, le verset 22 jusqu'au verset 24. Que par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises. Donc, la fin du verset 21 en français. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. La fin du verset 21. À vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et cela est adressé pas seulement aux jeunes croyants, mais à nous tous. Et à être renouvelés dans les profondeurs de notre vie spirituelle. Que nous puissions trouver grâce devant Dieu. Et que nous puissions dire sincèrement, Seigneur, que dans ma vie, en toutes choses, ta volonté soit faite. Ôte de moi tout ce qui ne pourra pas subsister devant toi, pour ne pas que je continue à me corrompre par les convoitises trompeuses, et que dans les profondeurs de ma vie spirituelle, je sois renouvelé. S'il te plaît. Maintenant, le verset 23. À être renouvelé dans les profondeurs de votre vie spirituelle. À être renouvelé. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté véritable que produit la vérité. Amen, amen. Est-ce que on doit encore tenir une prédication là-dessus? Ou bien est-ce que cela suffit si tous nous lisons cela comme une épître qui nous est adressée personnellement et qui a été écrite pour nous. Alors, on n'a plus besoin de tenir une prédication là-dessus. Alors, nous sommes des croyants et dans cette épître de l'apôtre, déjà, il a été annoncé, prêché et dit ce que le Seigneur attend de nous et il nous est montré par ces épîtres ce que le Seigneur veut produire dans notre vie, faire dans notre vie. Nous lisons maintenant dans Hébreux, le chapitre 5, à partir de verset 7 et verset 9, jusqu'au verset 9. Hébreux, chapitre 5, à partir de verset 7 jusqu'au verset 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé de son angoisse. En allemand, de son angoisse. Restons ici un moment. Notre bien-aimé Seigneur, et laissez-moi vraiment dire cela par conviction entière. Il n'y a qu'un seul et unique éternel, qu'un seul et unique Dieu, qu'un seul et unique Seigneur et éternel. Et l'éternel de l'Ancien Testament est l'éternel du Nouveau Testament, le Seigneur de l'Ancien et le Seigneur du Nouveau. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu du Nouveau Testament. Que notre bien-aimé Seigneur, à l'image duquel Adam et nous fûmes créés. C'est lui qui est venu sur cette terre dans un corps de chair et que dans ce corps de chair, particulièrement sur le chemin à la croix, n'est-ce pas, à Gethsémané, il a lutté, pleuré, supplié. Et ici, nous avons lu. Il a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui exauce les prières. Nous avons ici notre modèle, notre exemple à suivre, que si dans notre vie, quand l'Esprit de Dieu commence vraiment à agir dans notre vie, alors de nos prières, les prières passeront à la supplication et de la supplication, ça devient une lutte. Et mes bien-aimés frères et sœurs, je le confesse devant le Seigneur que je rentre et je sors et je dis, Seigneur, je veux crier, pas seulement prier, mais crier, pas seulement supplier et lutter, mais crier et dire, Seigneur, que cela se passe en moi, que vraiment ma volonté soit ta volonté et que ta volonté soit ma volonté et que tout ce que tu as fait pour moi est déterminé pour l'Église, que cela aussi soit fait et s'accomplisse. Mais laissez-moi aussi de la même manière sincèrement dire, seulement si ce cri de détresse vient sur nous et que nous ressentons que nous ne sommes pas encore là où nous devrions être et que nous ne sommes pas encore ce que le Seigneur veut faire de nous et que cela alors devient une détresse sincère de tout notre cœur, que vraiment nous ne soyons pas seulement nous venons pas seulement à prier ou bien à supplier, mais ça passe à la lutte et nous disons, Seigneur, quand est-ce que tu le feras réellement en moi? Et c'est à ce moment-là que nous recevons, comme nous l'avons lu ici, la réponse comme le Rédempteur, comme avec le Rédempteur. Lui, tel qu'il a pris ici notre place, ici dans son corps de chair, et tel qu'il est écrit, qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé à cause de son angoisse. Toi aussi, bien-aimés frères et sœurs, tu seras exaucé. Et si tu viens à ton Dieu, tel que notre Rédempteur est venu tu seras exaucé. Donc, si tu viens avec lui dans ton cri de détresse sincère, alors nous serons exaucés et nous pourrons louer notre Seigneur et Rédempteur. Continue, s'il te plaît. Le verset 8 maintenant. Hébreux 5, verset 8. Bien qu'il soit fils, l'obéissance, il a appris l'obéissance. Donc, la fin du verset 7 et le verset 8. Il a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils. L'obéissance pour les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Et ici, si nous devons nous arrêter un moment. Dans l'obéissance. L'obéissance est la chose la plus importante. Et aussi certain que nous lisons ici, il est écrit ici concernant l'obéissance du Sauveur. Il est aussi écrit concernant l'obéissance des rachetés. Des rachetés. Tel que lui, il a dû passer par toutes ses douleurs pour apprendre l'obéissance. C'est-à-dire, c'est ainsi que nous aussi, nous devons passer par toutes sortes de douleurs et de tribulations pour apprendre l'obéissance. Et c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Et il voit la vraie foi qui est liée à l'obéissance en nous. Et c'est ainsi que nous aussi, comme croyants qui sont obéissants, nous serons couronnés comme notre Seigneur. Dans Colossiens maintenant, Colossiens chapitre 4, verset 16. Colossiens 4, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Remercié soit notre Dieu. Encore une fois, cette pensée, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans d'autres villes ou aussi dans l'église de Laodicée, des Laodiciens. Et vous aussi lisez l'épître de Laodicée. Oh bien, frères et sœurs, comme c'est merveilleux de ce que nous pouvons aujourd'hui lire ces épîtres. Que ce soit Pierre qui les a écrites ou bien qu'elles furent écrites par Jacques ou bien par Jean ou bien par Paul. Que ce soit Malachie, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous ont écrit. Et voilà. Le résumé vint. S'il vous plaît, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, dites-moi, comment est-ce que l'Ancien Testament a pu être résumé? Qui a été écrit sur des milliers d'années, même par différentes personnes? Comment? Qui a fait en sorte que cela soit écrit? De Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à Malachie, le dernier chapitre et le dernier verset. Tout. Quand est-ce que cela a eu lieu? Comment est-ce que ça a eu lieu? Les différents événements. Tout ce qui devait être écrit a été écrit. Tout devait être écrit. Même, et ensuite, dans le résumé, comme livre, d'abord en tant que Torah, les cinq livres de Moïse. Et ensuite, en tant que tout l'Ancien Testament, en tant que donc comme livre, et bien mes frères et sœurs, disons-le clairement, à notre époque, nous avons pu voir que le Seigneur nous a fait entendre justement la proclamation des passages bibliques qui sont déterminés pour notre temps et qui maintenant s'accomplissent et que c'est justement ces versets bibliques-là qui nous ont été annoncés. Et combien de fois nous l'avons déjà dit et combien de fois je vais encore pouvoir le dire, je vais encore devoir le dire. Quand le temps fut accompli, cela a eu lieu lors de la première venue de Christ. Celui qui veut exactement le lire, il peut exactement le lire. Que ce soit dans Matthieu chapitre 3, que ce soit dans Marc 1, que ce soit dans Luc chapitre 1, exactement, tout est redonné. Et les prophéties de l'Ancien Testament ont été ordonnées bibliquement. Ceci est l'homme auquel se réfère la parole que le Seigneur a prononcée par la bouche du prophète Ésaïe. Quand dans le Nouveau Testament, on se recueille dans la lecture et qu'on fait une pause en lisant et qu'on regarde ces versets et qu'on voit comment est-ce que la relation existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament et entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Toute cette relation est parfaitement rétablie. C'est simplement merveilleux. Ici, l'annonce, là-bas, dans le Nouveau Testament, l'accomplissement. Le temps était accompli et tous les conducteurs religieux, tous les sacrificateurs, tous les anciens, tous ont continué à faire leurs traditions et comme leurs habitudes. Mais il y a eu un homme envoyé de Dieu. Subitement, comme nous le savons exactement, son annonce, sa venue avait été annoncée à Zacharie. L'ange Gabriel vint et lui a dit exactement ce qui allait se passer. Et l'objectif pour lequel Jean-Baptiste viendrait et qu'il aura un ministère, tout cela nous est écrit dans les Saintes Écritures, dans tous les détails. Tout cela est redonné. Et ça, je le dis toujours très volontiers. Si celui qui a compté s'est pas trompé, combien de versets bibliques et de prophéties se sont accomplis lors de la première venue de Christ? Je crois qu'il est venu à un résultat de 109 prophéties. Ça me réjouit simplement de ce que Dieu a veillé sur sa parole pour l'accomplir quand le temps fut arrivé. Cela a eu lieu. Et aussi Jean, le prophète, savait pas qui serait le Messie. Et il lui a été dit, celui sur lequel tu vois le Saint-Esprit descendre, c'est celui-là. Et alors il a pu dire, ça, je l'ai vu et je vous annonce aujourd'hui. Je vous l'annonce. Simplement merveilleux. Ce qui s'est passé lors de la première venue de Christ, c'est merveilleux. Mais maintenant, nous vivons, n'est-ce pas, très, très proche avant le retour de Jésus-Christ. Et la plupart appellent cela la deuxième venue de notre Seigneur. Il a donné la promesse dans Jean 14. Je vais vous préparer une place et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Mais ensuite, le Seigneur, n'est-ce pas, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, a donné des promesses. Et bien, mes frères et sœurs, c'est tellement important de parler, de comprendre le langage biblique, même si la Bible parle du jour du salut, du temps de la grâce, du jour favorable, du temps favorable, du temps agréable. Et quand Paul écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, ceci est le jour de la grâce, le jour favorable, mais ce jour va vers sa fin. Et ensuite viendra le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Et les Saintes Écritures disent, que ce soit dans le prophète Joël, que ce soit concernant ce que Paul a écrit ou bien de Pierre, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Mais avant que ce jour terrible arrive, le jour de la colère, le jour de la rétribution, le jour du jugement, le jour des jugements de Dieu, avant que ce jour vienne, le Seigneur a donné la promesse. Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Dites à haute voix, Amen. Remerciez une fois le Seigneur de ce que nous avons tout cela sous nos yeux par écrit et que ce n'est pas de la théorie. Rien n'est dit si ce n'est que cela soit vraiment écrit. Jean le Baptiste savait qui est-ce qu'il était. Et il a pu même rendre témoignage de l'objectif pour lequel le Seigneur l'avait envoyé. De la même manière aussi, nous ne faisons pas de mystère là-dessus, que certains gens puissent dire ce qu'ils veulent. Ils suivent un homme appelé William Branham. Non, la question est très simple. Que aujourd'hui, moi, je pose, qui est-ce que toi, tu suis? Qui est-ce que suivent tous les catholiques? Qui suivent tous les protestants? Qui suivent tous les baptistes? Qui suivent tous les méthodistes? Qui suivent tous les témoins de Jéhovah? Qui suivent tous les adventistes? La Ellen White, ou bien le Russell, ou bien cette personne. Mais nous, suivons pas un William Branham, mais nous suivons seulement et uniquement le Seigneur Jésus-Christ qui a confirmé cette promesse qui est sortie de sa bouche lui-même dans Matthieu 17, le verset 10 et ensuite le verset 11. En vérité, je vous le dis, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Cela nous distingue de tous les autres. Nous ne suivons pas un homme. William Branham n'a pas apporté une nouvelle religion, inventé une nouvelle profession de foi, direction de foi, mais le message divin du salut, c'est ce qu'il a apporté, la parole prophétique, la parole de l'enseignement, tout ce qui appartenait à l'évangélisation a été annoncé et apporté par son ministère. Tous les enseignements qui étaient nécessaires ont été apportés par son ministère. Tout ce qui était nécessaire pour annoncer la parole prophétique a été apporté par son ministère. Et nous tous, nous nous réjouissons de tout notre cœur concernant cela, que justement, nous pouvons, des années 60, écouter ses prédications. Mais disons-le encore une fois, pas différentes directions de foi qui se réfèrent tous à Branham ou au message, mais une seule et unique église vivante du Dieu vivant. Une église du Nouveau Testament, rachetée par le sang, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifié dans la parole de Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, je peux le dire ici, Si vous l'avez, si vous saviez comment est-ce que actuellement la faim augmente dans les croyants maintenant, de faire réellement toutes les expériences du salut et cela personnellement, d'expérimenter une vraie nouvelle naissance, d'être régénéré, renouvelé, de se dépouiller de la vieille nature et de revêtir l'homme nouveau, la nouvelle nature, comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction dans Colossiens et dans Éphésiens, dans Romains, chapitre 6. Combien désire réellement cela? Être baptisé Saint-Esprit, l'homme nouveau, la nouvelle nature, combien? En réellement, un ardent désir d'être baptisé Saint-Esprit, combien désire réellement être baptisé Saint-Esprit, d'être aussi scellé du Saint-Esprit? Laissez-moi vous le dire au nom du Seigneur. Tous ceux qui, comme une épouse parole, pure, maintenant obéissent à l'appel à sortir et qui ne tolèrent aucun faux enseignement, n'acceptent et n'écoutent aucune interprétation, aucune erreur, aucune interprétation, et ne tolèrent ou bien n'acceptent aucun mélange, mais qui sont lavés purs dans le sang de l'agneau. Et de la même manière, sont lavés pour pouvoir être lavés justement. Ainsi, dans le sang de l'agneau et et de la même manière, être lavés ainsi de tous les faux enseignements dans le bain du lavage de la parole de Dieu. Et celui qui prend un bain, il sait comment on doit être immergé dans l'eau, immergé entièrement dans l'eau. Exactement comme terrestrement on est baptisé en étant immergé dans l'eau, c'est ainsi que dans un bain, nous sommes dans le bain de la parole, nous sommes lavés, immergés et être lavés jusqu'au dernier iota, jusqu'au dernier verset. Et que absolument, plus rien ne reste, aucune incompréhension, aucune interprétation, aucune explication, aucune erreur, rien, plus rien ne reste. Et ceux qui vraiment appartiennent à cette troupe des élus, ça, ce sont les enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse croient seulement la parole de la promesse et reçoivent aussi l'esprit promis, l'esprit de la promesse qui ensuite nous conduit dans toute la vérité. Et c'est ainsi que par l'Esprit de Dieu, ils sont conduits de clarté en clarté, de vérité en vérité. Et ça, je l'appelle simplement, ça, c'est ce laps de temps saint dans l'histoire du salut maintenant, dans lequel nous sommes, où nous devons détester chaque faux enseignement, détester chaque forme d'idolâtrie, qui est fait aussi avec le prophète ici et là. Simplement, rester sobre, clair et vrai, avec le Seigneur, marcher et demeurer dans sa parole, marcher avec lui pour pouvoir être trouvé dans sa parfaite volonté, dans sa parole. Résumons de quoi il s'agit dans cette réunion aujourd'hui. La parole d'introduction précieuse de Colossiens et les autres paroles qui ont été lues aussi, et ainsi aussi l'écriture, les écritures auxquelles nous avons fait référence. Celui qui est vraiment né de Dieu, il est un homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et mes bien-aimés frères et sœurs, et cela vient de Dieu, et aussi vrai, aussi certain que vous pouvez croire à ce qu'on appelle le message de la fin des temps, aussi vrai que vous pouvez le croire. Et cela de tout votre cœur, vous pouvez croire que Dieu le Seigneur, dans une nuée surnaturelle, est descendu lui-même et que le 11 juin 1933, il a parlé au prophète William Branham, qui ne savait pas à quoi est-ce que Dieu l'avait déterminé, et cela avant même la fondation du monde, et qu'il était en train de baptiser la 17e personne, un frère. C'est à ce moment-là que la nuée surnaturelle, avec un vent impétueux, est descendue. Alors qu'il se tenait dans le fleuve l'Ohio, il y a la rivière l'Ohio, et ensuite ses paroles puissantes ont retenti, telles que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Et ce message divin, je l'ai porté en tant que ainsi dit le Seigneur dans ces derniers 55 ans sur toute la terre. Je l'ai porté et Dieu a accordé sa grâce, a ouvert des portes et des cœurs jusqu'aux extrémités de la terre. Et maintenant, je peux dire à tous, maintenant je peux dire à tous dans tous les peuples, les langues et les nations, et cela au nom du Seigneur. Et je peux les bénir à tous et leur dire, soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant par la grâce. Tu nous as accordé la grâce de reconnaître le jour et l'heure, le message et le messager, et de prendre ainsi part à ce que Dieu, après le décès de son serviteur, de son prophète, a fait en décembre 1965, le décès, mais depuis 1966, le Seigneur a pris soin pour que la parole révélée sainte soit apportée à tous les peuples, les langues et les nations. Et tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu ajouteront à la foi l'obéissance et avec leur vie personnelle et avec leur vie de croyant, ils confirmeront qu'ils croient la sainte parole de Dieu et qu'ils ont accepté ce que notre Seigneur nous a donné par l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha et ce qu'il nous a accordé par le dernier message dans lequel tout devait être ramené dans l'état primitif et que Dieu soit remercié. Tout a été ramené dans l'état primitif. Ô Seigneur, notre Dieu, soit la louange, soit l'honneur, maintenant et dans toute éternité, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur, je te remercie pour ta grâce et ta fidélité, pour ta sainte et précieuse parole. Et je te remercie pour tous mes frères et sœurs dans toutes les langues, dans tous les pays, dans toutes les races, dans toutes les nations. Bien-aimé Seigneur, je te remercie pour les transmissions. Je te remercie pour tous les frères qui traduisent, qui prennent part à la transmission par la technique. Je te remercie, Seigneur, et te demande maintenant de bénir de la plénitude de ta grâce et achève ton œuvre de la rédemption dans ta troupe rachetée par le sang, baptisée du Saint-Esprit pour le jour glorieux de ton retour. Et nous te remercions de ce que ton retour est très, très proche. Maranatha, viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Alléluia, alléluia, amen, amen. Comme c'est merveilleux de savoir, Jésus est mien. C'est donné à moi, lui qui a effacé l'acte qui nous condamnait, qu'il soit tout et tout pour moi. Dans la présence de Jésus, dans la présence de Jésus, c'est déjà le ciel sur terre. Quand nous passons des heures dans la prière, devant sa face. Proche de ton cœur, que cela soit ma solution jour après jour. Est entièrement donné à ta volonté. Parfaite, quoi qui arrive, dans vivre dans ta présence, vivre dans ta présence, c'est déjà le ciel sur terre. Quand nous passons des heures dans ta présence et que nous nous recueillons dans la prière. Ô toi, mon bien-aimé Sauveur, délivre-moi entièrement de ma propre nature et que ce que je fais et ce que je dis reflète ta vie. Vivre dans ta présence, vivre dans ta présence. C'est déjà le ciel sur terre. Quand devant ta face, nous passons des heures dans la prière.